CFM Villefranche, le mag.
Le mag, oui, magazine d'actualité. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Bon début de semaine, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Et bonjour Didier.
Bonjour David.
Didier Vallet, grand spécialiste des plantes aromatiques et médicinales. Sommité fleurie, biodynamie. Se dit Didier, je ne sais pas, c'est ce qui se dit dans les couloirs à Villefranche, un peu à droite, à gauche, de ci, de là, que vous chuchotez à l'oreille des plantes.
Dans les couloirs, je ne sais pas où, derrière les haies plutôt.
Derrière les haies. Tous les 15 jours, des hommes, des plantes et de la biodynamie, c'est le rendez-vous installé sur l'antenne et en alternance avec Waldo Stephen, la voix du milieu. Cette semaine, on va plus s'intéresser, on va être plus dans un atelier pratique, ce qu'on peut faire au jardin.
Oui, ben, c'est surtout, on a eu une petite période un peu sèche là, et puis depuis, je perds 2 semaines à peu près, il a replu. La terre est bien. Il est tombé des bonnes averses, mais c'était tellement sec. Et puis, c'est bien tombé. Déjà une petite pluie, après plus fort. Donc, la terre est bien humide en surface, en profondeur aussi. Dimanche, le 10 mai. On a sorti nos préparations biodynamiques. On en parle souvent des préparations biodynamiques. Mmh. Donc, ce sont des fleurs qu'on a mis dans des organes animaux et qu'on met en terre. On les laisse 6 mois en terre. On fait ça fin septembre et on ressort ça fin avril à peu près, début mai. Et on fait ça sur la ferme du Marigot. Elle est assez connue dans la région, la ferme du Marigot, quand même, une ferme d'accueil aussi, où il y a beaucoup d'enfants qui viennent des écoles.
Ferme pédagogique.
Une ferme pédagogique, voilà. Et donc, on fait nos préparations là-bas, on les stocke là-bas.
Chez Laurent Lemouzy.
Chez Laurent Lemouzy, oui, qui, donc, il pratique la biodynamie aussi.
Alors c'est marrant, cette exploitation à la Fouillade, la ferme du Marigot, qui était une exploitation en agriculture traditionnelle, puis biodynamique, maintenant.
Oui, c'est pas rare, hein, parce que il y a de nombreuses fermes, comme je suis plus très jeune non plus, j'allais dire, les jeunes ont repris la suite des parents, mais maintenant, les jeunes sont en train de prendre leur retraite. Mais donc, dans les années 80-90, il y a eu pas mal de jeunes comme ça qui ont pris...
C'était courageux à l'époque, hein, quand même, de passer de
l'agriculture.
Oui, il y en a
pas mal qui sont passés directement en biodynamie. Alors, il y en a qui sont passés en bio. C'était déjà courageux dans les années 80-90 de passer en bio.
Totalement.
Et c'était assez amusant parce que...
Surtout quand on reprend une ferme familiale.
Oui. Et très souvent, justement, le père, la mère étaient là. Et quand les jeunes ont dit, bon, moi, je veux bien prendre la suite, mais je continue.
Autrement.
Je vais faire autrement. Il y avait aussi des amis là, à Livignac, la famille Rémès. Et à Livignac, les maraîchers, là, au bord du Lot, ils avaient tous des vaches aussi. Et quand il a dit à son père, moi, je veux arrêter, je vais pas continuer de faire du lait, mais par contre, je vais garder des vaches en engraissement pour avoir du fumier pour les cultures. Et les parents, ils avaient très peur. Très très peur, leur fils là, qu'est-ce qu'il allait faire, tout ça. Et quelques années, très vite, ou quelques années plus tard, je me rappelle chez les Rémès, j'arrivais à la ferme, le père il était là, regarde ce que j'ai trouvé là dans cette revue, ce qu'on peut faire contre telle maladie, des choses comme ça. Ils étaient partis complètement dedans, quelque part, Alors qu'au départ, et c'est normal, ils avaient peur. Ils avaient peur que leur fils se casse la figure et voilà. Donc, on est parti sur autre chose.
Oui, voilà, c'est une petite parenthèse.
Mais voilà, mais voilà. C'est cette transmission et des paysans qui étaient complètement dans l'agriculture qu'on leur avait fait faire depuis quelques décennies étaient capables très bien de repartir et de pas vivre ça comme un retour vers le passé.
Retour vers le passé. Ça pourrait faire le titre d'un bon film. C'est un atelier pratique aujourd'hui. On va repartir certainement avec des bonnes combines. Il y a deux semaines, c'était la fabriculture avec, et ses instruments de torture pour la rime. Que nous réserve l'intervention du jour? On va le savoir dans un instant après la musique. Des âmes, des plantes et de la biodynamie. Didier Vallet, comme tous les 15 jours, avec moi pour ce début de semaine. Rejoindre, vous faites sacrément bien d'être là. On va parler biodynamie avec Didier Vallet, mais pas que. On va s'intéresser à ce qu'on peut fabriquer, traficoter au jardin, ce que j'ai cru comprendre. les bons plans de la semaine. On a tout ça, un œil sur la pelouse, les plantations, le potager en ce moment. Voilà, c'est incontournable.
Totalement. En plus, comme il a plu... Il faut vraiment en profiter parce que la terre est impeccable, pas trop mouillée, et comme il faut pour mettre des petites graines, pour faire des plantations et ainsi de suite. Donc vraiment, moi là, je vois dans nos jardins médicinaux, j'avais tous mes bébés plantes de calendula, de bourrache, d'échalotia, de tout un tas de le basilic aussi, qui était prête à planter, et donc ça a été la semaine passée là un gros travail, et c'est super parce que pas trop chaud, parce que si vous mettez une petite plante là toute frêle avec des tissus encore tout fragiles en plein soleil, elle a du mal, même si elle a la racine dans l'humide, tandis que là on a eu voilà un moment vraiment magnifique pour les jardiniers. Alors peut-être que ceux qui ne sont pas jardiniers, ils aiment moins ce temps, ça s'est rafraîchi, il fait moins chaud, quand on sort du bureau, il fait moins beau, mais les jardiniers, je pense qu'ils sont contents. Donc c'est pour ça que j'avais envie un peu de parler du jardin aussi. Et j'avais envie de reparler aujourd'hui d'une plante médicinale, mais pas ses propriétés médicinales, mais quelque chose qu'on peut utiliser pour les jardiniers, en fait. Et c'est l'ortie.
Ah bah oui.
Donc oui. Voilà, c'est cette ortie aussi qu'on utilise dans les préparations biodynamiques, dans celles qu'on met dans le compost. Alors là, l'ortie qu'on utilise en biodynamie, donc on fauche des orties, là c'est en ce moment, juste au moment de la floraison, avant la floraison, là ça se prépare tranquillement, mais d'ici... deux, trois jours, les orties vont commencer à bien fleurir.
Alors, orties de la famille des labiacées, c'est
non,
ça ?
Non, urticacées.
Urticacées, ah bon, d'accord. Bon. Elles ont quand même la tige carrée, non ? Ou pas, les orties ?
Oui, mais toutes les plantes qui ont la tige carrée ne sont pas des labiées. Et il y a trois critères pour les labiées.
C'est recalé.
Tige carrée, c'est feuilles opposées, les étages de feuilles sont à 90 degrés, l'un au-dessus de l'autre, et puis les fleurs
urticacées,
alors avec des fleurs qu'on voit à peine, parce qu'elles sont vertes, elles sont toutes petites, et il faut vraiment prendre une loupe pour les regarder.
Alors certaines orties ont des grelots comme ça, celles-là font mal, elles picotent celles-là.
Oui. Il y a deux variétés d'orties. Il y a l'urtie brûlant, Urtica urens, et puis l'urtie dioïque, Urtica dioïca, c'est-à-dire qu'il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles. Il y a deux variétés, mais les deux ont les mêmes propriétés au niveau culinaire, au niveau médicinal. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas à rechercher la variété spéciale. Alors, pour les jardiniers, cette ortie, il est super. Alors déjà, maintenant, c'est un peu tard, mais au printemps, il est super pour faire des soupes, faire des potages, faire des quiches. Il y a vraiment, c'est une très bon en plus à
farci de silicium.
Les petits poils, oui, les petits poils urticants sont beaucoup de silicium, mais autrement c'est une plante aussi avec beaucoup de fer dedans, hein, comme les épinards. Hein, comme les épinards de Popeye.
Ah, c'est pas une légende, les épinards ? C'est pas une erreur de mesure ?
Non, les épinards aussi. Mais on le retrouve dans le goût. Y a un petit, que ce soit les épinards ou l'ortie, quand on le fait cuire, il y a un petit goût ferrugineux, je sais pas comment dire. Voilà, il y a un petit goût qui dénote le fer. Et donc, cette ortie pour les jardiniers, c'est super. Alors là, le 18 mai, il y a peut-être encore des jardiniers qui sont un petit peu en retard pour planter les tomates.
Mais est-ce qu'on en met dans le trou des orties ?
Mais dans le trou des tomates, mettent couper 3-4 tiges d'ortie, mettre ça au fond du trou, Après, on fait mais sa tomate, hein, on rebouche de terre. Et l'ortie va avoir... déjà, ça se décompose très, très rapidement, l'ortie. Mmh. Vous mettez de l'ortie en tas, très vite, ça va se transformer en terreau. Et un terreau très, très riche en azote. Donc, ces orties au fond du trou de plantation de la tomate va nourrir, en fait, le plant. La tomate est une plante quand même assez gourmande. Hein, c'est des plantes qui viennent d'Amérique centrale, du Nouveau Monde, où les terres sont encore très riches. Donc, nos vieilles terres de l'Ancien Monde, ici, occidentales, elles sont un petit peu plus pauvres que là-bas. Donc il faut booster un petit peu et puis ça va faire un engrais si on veut entre guillemets, mais l'ortie aussi va protéger contre le mildiou. Le mildiou, donc c'est une maladie cryptogamique, c'est-à-dire un champignon. Alors on a parlé les fois d'avant du rôle des champignons
et du réseau
et voilà dans, et des réseaux et on y reviendra sûrement un de ces jours. Mais c'est les champignons, leur place c'est dans le sol. Mais par contre, il peut y avoir quelquefois des conditions climatiques chaudes et humides qui vont faire que le champignon, au lieu de rester dans le sol, il monte au-dessus du sol et il envahit la partie aérienne de la plante. Tant qu'il est dans les racines, il a pas de problème, il apporte pas de maladie. Mais dès qu'il n'est plus à sa place, il apporte une maladie. Le mal, c'est souvent un bien qui est au mauvais endroit. On ne peut pas dire ça c'est bien, ça c'est mal. Le champignon, on ne peut pas dire c'est mal, mais c'est bien à tel endroit, quand il est en haut, là. Et l'ortie, il va avoir tendance à ramener. Alors, il y a une autre plante aussi qu'on utilise, on en parlera aussi, c'est la prêle. Qui est bonne à récolter actuellement, qu'on commence à récolter dans les jardins. Et l'ortie, il est vraiment en relation avec à maintenir la vie dans le sol et maintenir le champignon dans le sol. Donc ça, c'est vraiment impeccable. Donc, sous quelle forme on peut l'utiliser ? Alors là, j'en parle parce qu'on l'utilise souvent sous forme de purin.
Ah !
Purin d'ortie. Donc le purin d'ortie, c'est une macération en fait, hein, dans de l'eau tiède, disons dans de l'eau qu'on met au soleil. Si vous voulez, vous allez prendre un grand seau, si vous faites 10 litres de purin par exemple, vous allez prendre un grand seau de 10 litres, vous allez le remplir d'ortie, mais sans tasser, hein, remplir le seau complètement, vous couvrez d'eau, et vous allez laisser ça au soleil pendant 3 jours à peu près.
On remue un petit peu ?
On peut remuer un petit peu, mais pas trop. Ça va macérer. Faut pas le laisser très longtemps. Je me rappelle, moi, une époque quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au jardinage bio et au purin ou des choses comme ça, il y a longtemps.
C'est autorisé, c'est autorisé le purin d'ortie ou
Oui, c'est autorisé. On peut même en acheter maintenant dans les magasins agricoles. Et il y a 50 ans, on appelait ça purin justement parce que on le laissait macérer longtemps jusqu'à ce que ça pue.
Oui, c'est
comme
ça.
Du purin, que ça sente mauvais. Et plus ça sentait mauvais, mieux c'était. Or, ces dernières décennies, on est parti sur autre chose parce que les odeurs putrides, la plupart du temps, sont dues à des bactéries anaérobies et qui sont pathogènes, la plupart du temps.
D'accord.
Donc, dès qu'on a une mauvaise odeur qui sort, hein, parce que, Une odeur à l'intérieur de quelque chose, l'odeur peut être mauvaise, mais ça ne doit pas sortir. Si ça sort, c'est là qu'il y a une problématique. Donc, dès que quelque chose sent mauvais, quand vous passez dans un champ et vous voyez des paysans, vous sentez des paysans qui ont mis du lisier, ce lisier sent mauvais, c'est pas normal. On peut faire du lisier qui sent pas mauvais. Un fumier, ça ne sent pas mauvais. Quand ça sent mauvais, c'est qu'il y a eu des fermentations anaérobies et qui sont où il y a des bactéries pathogènes qui se développent. Alors par exemple, si on veut faire du purin en agriculture bio, il y a des possibilités, hein, même en biodynamie. Il y a des fermes où, parce qu'il y a des purins, hein, c'est les jus qui coulent, il faut bien en faire quelque chose. Donc, il y a des systèmes avec du brassage des purins pour qu'il y ait de l'air qui rentre dedans. Toujours donc dans des cuves avec qui sont à l'air libre et puis avec des pales qui tournent et qui vont faire qu'il y a de l'air qui rentre. On met les préparations aussi dans des petits sachets, des préparations biodynamiques dedans, et on arrive à obtenir des purins qui ne sentent pas mauvais quelque part. Quand vous allez les passer dans les champs, les voitures qui passent ne vont pas le sentir. Donc, on continue d'appeler ça purin d'ortie, on devrait dire macérat d'ortie plutôt. Donc, c'est 3 jours. Il peut y avoir quelquefois des petites irisations, un peu bleues à la surface. C'est vraiment là, quand on a ces petites pellicules un peu bleutées à la surface, il faut vraiment l'arrêter. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on filtre pour retirer, parce qu'il va y avoir des bouts de feuilles, tout ça, donc c'est mieux de le filtrer, donc avec une mousseline, et on récupère ce purin, on va le mettre dans un bidon, donc si on en a fait 10 litres, on met dans un bidon de 10 litres, et ça va nous servir toute la saison au jardin. Voilà. Alors, les doses, faut diluer à 20%, c'est-à-dire avec 10 litres, on peut faire 50 litres. Et on met pas bon, alors après, on a 1 hectare de jardin, bien sûr, faut en faire plus que 10 litres. Mais avec 10 litres ou 20 litres de purin d'ortie, on a pour toute la saison au jardin.
Purin d'ortie, on met les feuilles et les tiges, hein. On met tout.
Juste, c'est
mon côté un peu bricole, j'aime bien augmenter un petit peu les choses. Si on y rajoute à nos orties des coquilles d'œufs et une peau de banane, est-ce que ça fait pas un super composé pour booster tout ça? Je suis désolé Didier, je lutte contre moi-même.
Les peaux de banane, je ne sais pas, à part que quelquefois on glisse dessus, on se casse la figure.
Ça n'a pas des propriétés, j'avais cru voir ça. Il y a tellement de solutions. Vous parliez d'orties, de trous qu'on met pour les tomates. J'ai entendu parler des gens qui mettent des sardines. Vous avez déjà entendu parler de cette technique? Des gens qui mettent des sardines dans le trou.
Des sardines.
Une sardine. Moi, je trouve ça dommage de gâcher.
Une sardine de camping ou une sardine à manger?
Une sardine à manger. Ah bon. Et il paraît que c'est très bon pour le développement des pieds de tomates.
Moi, j'ai essayé beaucoup de choses avec les tomates. À une époque aussi, quand je commençais à faire du jardin, on mettait un fil de...
De cuivre.
De cuivre au travers de la tige.
Ah oui, j'en
sais
pas.
Moi,
pas
ça...
Pas trop bon.
Je l'ai fait, j'ai pas vu vraiment de résultat, et je trouve ça blessait la plante quand même d'enfoncer un truc dedans. Donc il y a plein de trucs. L'ortie pour moi c'est vraiment quelque chose qu'on a partout, qui est facile à faire.
Et on n'a pas besoin de rajouter.
Alors, on n'est pas obligé. Alors, le purin d'ortie, c'est vrai qu'il va permettre, alors ça s'utilise à petite dose, c'est un peu, ça aide à pousser. Ça aide la plante à pousser aussi. Donc, un petit peu d'arrosage de purin d'ortie dilué une fois de temps en temps sur la plante, ça va la booster un petit peu. Ça va aider aussi à la protéger du mildiou. Donc, voilà. Mais on peut l'utiliser aussi, si j'ai encore 1 ou 2 minutes.
Une ou deux, c'est beaucoup.
Bon, alors 30 secondes.
C'est bien.
On peut l'utiliser aussi sous forme de tisane. La tisane d'ortie marche très très bien, donc en pulvérisation, là on fait une tisane bien concentrée, on la dilue à moitié, et avec un pulvérisateur, on passe ça sur les feuilles de la tomate, et ça va protéger aussi du mildiou.
D'accord, ou d'autres plantes hein, qui peuvent avoir...
Il y a d'autres plantes, on en parlera... C'est trop. Soit je suis trop long.
Et puis moi je relance en plus. Non, voilà. C'était le bon plan de la semaine. L'ortie, évidemment, on l'oublie, voilà. On passe à côté.
Mais bon, puis... on va parler du jardin régulièrement maintenant qu'on est en pleine saison de jardin.
Rendez-vous le 1er juin, dans deux semaines, pour la suite de nos aventures au jardin. On parlera peut-être du marc de café. Il y a tellement de choses dont on entend parler, on ne sait pas si ça marche ou pas.
Et le lait sur les tomates.
Allez, il faut qu'on se retrouve.
Contre le clou noir. Des tomates.
Allez, dans deux semaines, des hommes des plantes et de la biodynamie, Didier Vallet pour l'épisode du jour. Belle journée, Didier, à très bientôt.
CFM Villefranche, le mag.